Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Agnès Benassi-Kéré, sous-gouverneur de la Banque de France, Christian de Boissieux, professeur à Paris à Panthéon-Sorbonne, vice-président du Cercle des économistes, partenaire de cette émission tous les jeudis. Et il va publier un livre de contribution intitulé « Réussir la transition énergétique et écologique » aux collections SK. Christian Poyot, PDG de Micropole. Christian de Boissieu, le coût des retraites, c'est assez extraordinaire. Parce que voilà, on continue à... Alors oui, j'ai dit recul, non. Les promesses sont d'avancer l'âge de départ à la retraite et pas de le reculer. Donc d'aller de 64 à 62, voire 60, pourquoi pas. On sait que 64, ça passe pas. On a des promesses politiques pour aller à 62 ou à 60. On peut se permettre de vendre ça aux gens ? Quand c'est déjà la toute première dépense de l'État ?
Dans les campagnes, on vend tout et n'importe quoi, de toute façon.
Ah oui, enfin...
Le sens de l'histoire, c'est quand même de reculer l'âge de la retraite. Je rappelle que nos voisins, y compris des voisins qu'on traite souvent avec condescendance comme l'Espagne, et nos voisins sont à 67 ans, pour la plupart d'entre eux.
65-67 en fonction des pays.
Allemagne, 67, Espagne, 67, etc. Donc... maintenant, ce qui a été fait, qui est une transition vers, qui n'est pas une retraite définitive des retraites, maintenant 64, je pense que c'est... je ne vois pas comment on peut remettre en cause le retour. Alors, ça a déjà été fait dans l'histoire, parce qu'il me semble que Mitterrand, dans son premier mandat, avait eu un mouvement un peu similaire.
C'est-à-dire, il arrive, il met la retraite à 60.
Oui, oui.
Elle était à 65.
Mais c'est ce que je dis.
Oui.
C'est ce que je dis. Il avance.
Ah oui, oui, bien sûr. Sérieusement, s'il ne l'avait pas fait, on aurait eu moins de problèmes.
Donc, mais il y a des exemples dans l'histoire de recul ou d'avancer, en l'occurrence, l'âge de la retraite. Donc ça existe, mais franchement, ce n'est pas le sens de l'histoire. Et si on veut consolider notre système de répartition, je veux dire, la démographie, là, est quand même assez implacable.
Ah, elle est dure, même.
C'est un des rares domaines dans lequel, en économie, on arrive à faire des prévisions à peu près correctes.
Ouais, absolument.
Je peux se tromper, mais je veux dire, je ne sais pas ce que sera le taux de change dans 3 jours, mais je sais ce que sera la pyramide des âges en France dans 3 ans. Donc, voilà. Donc, si on veut jouer avec ça, moi, ça me paraît dangereux, et je pense que, bien sûr, c'est des magots. Ça aura surtout... Un certain succès auprès
des... Mais voilà, ça rencontre un certain succès. Ouais, le corps nous dit hier que le 2024, on est dans le rouge avec le système à 64 ans. Et ça fonctionne, c'est assez... Ouais. La démographie, c'est vraiment un sujet qui était absent des européennes. J'ai regardé en 2024, c'est la première fois de son histoire que l'Europe perd des habitants. Ouais. On perd 600 000 Européens actifs tous les ans.
C'est la transition démographique dans laquelle nous avançons tous. Et bon. Je répète, je pense que la démographie, c'est assez implacable comme contexte.
Bon, on dit toujours effectivement qu'on fait campagne en vert et qu'on gouverne en prose. C'est facile de promettre la lune. Après, il faut la décrocher quand on est aux affaires. Et là, on voit que du côté du RN, ça tangue sur l'histoire des retraites. Ils ne sont plus du tout sûrs de savoir exactement ce qu'ils vont faire.
Ce qui est dommage en France, c'est que toujours l'économie est quelque chose qui n'est pas considéré de manière sérieuse ou réaliste, ou en tout cas on n'a pas de consensus dans les partis pour avoir une vision factuelle de l'économie. Moi, le week-end dernier, avant l'annonce de l'élection, je vais regarder les programmes des 31 ou 35, je sais plus, là, candidats à l'Europe, mais vous lisez ça, mais c'est au début on rit et après on pleure, quoi. Enfin, c'est attristant. La deuxième remarque que je trouve dramatique toujours aussi, c'est quand on entend, enfin, une partie des candidats, mais on a l'impression que la France, c'est la Corée du Nord, quoi. On est au pire de pays du monde où les gens sont dans les conditions effroyables. Enfin, c'est Zola, quoi. Enfin, je pense qu'une partie des Français sont marqués par ça, quoi. Alors, je dis pas que tout est parfait sur Terre et certainement pas en France, mais encore une fois, si on se compare à d'autres pays, mais dans quel monde vit-on ? Enfin, on part à la retraite, comme disait Christian de Boissieu, beaucoup plus tôt qu'avant. On travaille beaucoup moins qu'ailleurs. On a la redistribution est beaucoup plus importante que les autres. Mais ça, c'est pas perçu par les Français, parce qu'ils ont une compréhension de l'économie qui est, somme toute, on peut le dire, malheureusement limitée, mais aussi parce que les partis qu'on pourrait qualifier de raisonnables n'ont aucun discours là-dessus, et on est tout le temps en train de ressasser qu'on est dans le pire des pays avec des conditions sociales effroyables. Donc c'est quand même totalement hallucinant. Donc après, une fois qu'on a dit ça, oui, effectivement, l'économie va être mise de côté, en tout cas durant la campagne. Après, il y a un principe de réalité qui s'applique. Vous parliez de François Mitterrand qui a fait, mais enfin, on va parler que d'économie, mais des trucs, mais d'une connerie. Enfin,
il le savait en 80 qu'il fallait pas.
C'est le seul mot qui vient. Ça a été fait sans aucune analyse. C'est vraiment des.
J'ai pas dit que c'était génial.
On en mesure encore les conséquences aujourd'hui. C'est complètement hallucinant. Quoi,
on se souvient du tournant de la rigueur de 83. Ça n'a pas été long quand même pour partir en
vrille. Enfin, ça fait deux ans où on s'est pris des. Et on continue à subir aujourd'hui. Donc, peut-être que là, on voit, et sans porter de connotation politique, ceux qui espèrent peut-être être au pouvoir, parce que, bon, enfin voilà, peuvent se dire, bah oui, mais il va peut-être falloir réfléchir cinq minutes quand même, quoi, si je veux dire. Parce qu'on est dans un monde encore plus différent que de celui de 1980. Il n'y avait pas l'euro, c'était beaucoup moins mondialisé, etc. Donc, effectivement, si les décisions économiques absurdes qui sont prises dans ce sens-là, on va en payer très rapidement les conséquences, très, très rapidement. Mais, encore une fois, ne nous leurrons pas, c'est pas ça qui va être au cœur de la campagne et qui va toucher l'esprit des Français, malheureusement. Mais on est là pour le redire, je pense, à cette antenne. Voilà. Donc, il faut continuer à insister sur ce sujet économique de réalisme. Et encore une fois, dans un pays qui vit globalement bien, dans lequel les conditions sociales sont quand même extraordinaires. Voilà.
La Banque de France a publié des éléments macro. Agnès Benassi-Quéré, on y parle de prévision de croissance, de prévision de taux de chômage, de prévision d'inflation. Qu'est-ce que vous retenez de la dernière livraison de votre maison ?
Alors, nous retenons une économie, somme toute, assez résiliente.
Oui,
hein, une croissance qui, bon an, mal an, serait à 0,8 en 2024, qui repartirait plus fortement en 2025, et une désinflation qui se poursuit. Donc ça, c'est un point très important. Et un pouvoir d'achat en hausse. Donc, je rebondis hein, sur la question
j'avais
des relations sociales.
Pouvoir d'achat.
Pouvoir d'achat, plus 1,2%. L'année dernière, plus 0,8 quand même. Alors, par habitant, c'est moins. Hein, ce serait 0,8 cette année pour 0,5 l'année dernière. Et j'en profite pour dire, il y a toujours... Enfin, en général, quand je dis ça, on ne me croit pas.
Oui, oui, mais j'ai l'habitude.
Voilà. Si, nous, on vous
donc... croit. Non, j'ai l'habitude. quand tu dis que le chômage baisse, que le pouvoir d'achat se maintient... Soit tu mens, soit tu es à la botte de Macron,
un féodé au
grand capital. J'ai droit à tous les coups.
Donc je précise que la Banque de France est indépendante.
Oui, je crois que l'INSEE fait un bon boulot aussi.
Et les chiffres de 2023 sont donnés par l'INSEE qui est également indépendant. Donc en fait, le problème de perception, c'est que le salaire réel, lui, a baissé en 2023 de moins 2,1, voire moins 2,8
selon les nouveaux comptes. On est encore en salaire réel négatif en 2023.
En 2023. Donc les gens voient que le pouvoir d'achat de leur salaire a baissé. Mais comme les impôts baissent et que les revenus financiers augmentent quand le taux d'intérêt monte, bah, au total, le pouvoir d'achat quand même augmente. Et donc il y a un problème de perception, sans parler des gens qui ont dû trouver du travail. Et pour eux, évidemment, il y a un saut en termes de pouvoir d'achat.
Mais quand vous dites ça, ce sont des chiffres macro-globaux et chacun les entend en les regardant sur sa propre situation. Et si ce que vous dites, Agnès, ne correspond pas à la situation de chaque personne qui vous écoute, cette personne considère que vous dites n'importe quoi.
Ils prennent leur salaire hors prime.
Et je le comprends, c'est humain en plus.
Ils prennent leur salaire hors prime et ils ne prennent pas forcément en compte des primes. Vous voyez, il y a tout un ensemble. Et évidemment, au point, il faut le prendre en compte quand on calcule les comptes. Voilà. Donc, cette hausse du pouvoir d'achat que nous attendons, hein, puisque depuis le début de l'année, les salaires augmente plus vite que les prix.
Ça aussi, on m'a dit que je mentais.
Les prix, ça c'est l'idée. Parce
qu'une personne qui a malheureusement dans sa boîte une hausse de salaire qui ne correspond pas au niveau moyen qu'on observe en France considère que c'est pas vrai. Bon, parce qu'il n'est pas directement concerné.
Oui, Nicolas, encore une fois, on est là pour redire.
Oui. Non, mais je raconte.
Là, c'est la réalité qu'on entend.
Mais parce que moi, je veux rester quand même très connecté avec les gens et leurs réactions. Et j'ai jamais insulté les ressentis. J'ai jamais insulté.
Oui, mais le fait d'avoir un ressenti n'empêche pas d'essayer d'amener aux gens à factualiser.
Oui,
le ressenti, c'est humain, mais la vision rationnelle, c'est aussi humain. Mais
chaque fois, je rappelle que la moyenne, elle n'est la réalité de personne. Toujours. Bon, allez-y, pardon.
Et moi aussi, je suis une consommatrice et je vais aussi faire les courses et je vois aussi des prix qui montent. Hein, donc, mais j'essaye justement de rationaliser tout ça. Donc pour 2024, en moyenne sur l'année, on s'attend à une hausse des prix de 2,5%.
2024, avec, 2,5%.
Donc sur toute l'inflation, avec des hauts et des bas, parce qu'il y a des effets de bas, je passe le détail. Et à partir de 2025, on passerait en dessous de 2% en France. Hein. Et les salaires, eux, on s'attend à ce qu'ils augmentent en nominal de 3,1%. Donc on est vraiment au-dessus de l'inflation. Et on est bien au-dessus aussi du déflateur du PIB, qui est le prix qui compte pour les entreprises. Je mentionne aussi ça, parce que c'est important en termes de partage de la valeur ajoutée. En 2024, on voit, même avec des hypothèses très prudentes sur le taux d'épargne, qu'on ne fait pas baisser en 2024, on voit quand même une croissance qui, bon an, mal an, est à 0,8%. Un investissement en recul, notamment l'investissement dans les ménages, mais aussi un investissement qui augmente faiblement pour les entreprises. Et puis, un redémarrage de l'investissement d'abord avec les entreprises en 2025, et puis progressivement l'investissement des ménages.
Ce qui est extra, c'est que vous confirmez que l'économie ne va pas si mal que ça. Et
est-ce que je peux...
Oui, mais bien sûr, vous pouvez, Christian de Boissieu. Mais là, on a eu une photographie.
Bon, non, mais d'abord, je... Merci Agnès, et je prends tout ça, moi, pour... très sérieux, hein, la Banque de France fait un énorme travail et crédible. Qu'est-ce que ça m'inspire ? Deux choses. La première, et ça, la Banque de France n'en est pas responsable, ni, et a fortiori Agnès, c'est que nous sommes dans un contexte où l'Europe continentale reste une zone de basse pression.
Ça veut dire quoi, une zone de basse pression ?
En termes de croissance, par rapport aux États-Unis, sans parler évidemment des pays émergents pour lesquels ça n'a pas de sens de faire des comparaisons. Mais je veux dire, c'est un scénario de reprise, mais le fond, ce qu'on appelle la croissance potentielle, le fond de croissance reste bas. C'est tout le débat sur l'évolution des gains de productivité. Ce fond de croissance reste bas. Donc c'est pas étonnant qu'en phase de reprise, on aille l'année prochaine, en 2025, peut-être vers 1,4, 1,5.
C'est 1,5, je crois. Hein,
Le
c'est
chiffre que vous créez, Agnès.
Pour la 2025, croissance.
Oui, je parle de la croissance.
1,2.
Ah, vous êtes sur un 2
en 2025 et un 6 en 2026.
Non, mais ça,
un 6 en 2026, d'accord.
J'ai regardé les prévisions du FMI d'avril, qui ont été publiées lors de... C'est à peu près... C'est la même dynamique.
C'est le même métier à jouer.
C'est la même dynamique. Non, mais, je veux dire, un, c'est mieux. Deux, moi j'ai du mal à satisfaire... Là, je ne parle pas de la France, je parle de la zone euro. J'ai du mal à satisfaire... qu'on reste ce que j'appelle une zone de basse pression. Deuxième chose que ça m'inspire, c'est sur la désinflation, c'est-à-dire le rythme de baisse de l'inflation. Je comprends bien les raisons pour lesquelles ça va mettre peut-être plus de temps que prévu, compte tenu de l'évolution des salaires dans certains secteurs, compte tenu de la hausse du fret maritime.
Fret maritime, c'est impressionnant.
Donc, vous avez une augmentation d'un certain nombre de coûts d'input qui pèsent sur les entreprises et qui font que... moi, ce qui m'avait frappé dans les derniers chiffres, et je me tourne vers Agnès, c'est qu'on prévoyait de retrouver ou de passer en dessous de la cible de la Banque Centrale Européenne de 2% par an. Aujourd'hui, on parle de 2026. Hein. On parle de 2026.
Oui, mais c'est pas...
Non, sur l'inflation, c'est 2025 qu'on passe sous les deux.
En zone euro, on est un peu au-dessus,
oui,
parce qu'en fait, en Allemagne et aux Pays-Bas, on a un marché du travail qui est extrêmement tendu et des négociations salariales qui sont très dynamiques.
C'est l'Allemagne qui a tiré les moyennes d'hausse de salaire.
Néanmoins, c'est aussi parce qu'il y a eu plus de baisses de salaires réels. Ils ont eu plus de temps, si vous voulez. C'est une question de fréquence des négociations salariales.
En Allemagne, c'est un peu une fréquence tous les deux ans.
Nous, on n'a plus beaucoup à rattraper en termes de salaire réel, de pouvoir d'achat du salaire, alors que l'Allemagne a plus à rattraper. Donc ça fait une dynamique de salaire qui est importante encore en 2024, peut-être un peu 2025, ce qui fait que l'inflation en zone euro a été révisée légèrement à la hausse lors de la dernière prévision de la BCE.
Mais c'est vrai qu'on a quand même des éléments inflationnistes, le fret maritime en est un, le prix des services
en est un. Oui, mais c'est pas
ça
qui fait vraiment... Alors les services, oui, parce que les services sont très dépendants des salaires.
Voilà.
Et donc c'est la dynamique salariale qui... Alors, si on rentre dans le détail, hein, on a des prix manufacturiers qui reviennent à un taux d'inflation extrêmement bas et l'inflation est nourrie par l'inflation dans les services où là on a un rattrapage. C'est plus long pour revenir à 2%. Et d'ailleurs, en fait, sur longue période, les prix des services augmentent de plus que 2%. Parce qu'il y a moins de gains de productivité que dans l'industrie, et donc voilà.
L'économie va pas si mal, Christian Poyot. Et objectivement, si on regarde les choses de manière assez clinique, c'est la réalité. Alors, c'est un peu de la basse pression, il a raison, Christian de Boissieu. Mais enfin, c'est pas de la récession.
Oui, mais...
Le pic de taux de chômage, je crois que vous l'avez mis à 7,9%. C'est pas rien, mais on...
Alors, la basse pression, c'est dû à la démographie et puis
la protection sociale. Cette notion de basse pression, effectivement, je suis d'accord, c'est un peu regrettable, mais en même temps, on peut pas voir le beurre et l'argent du beurre. On a une basse pression parce que, en Europe, alors spécialement en France, il y a des amortisseurs sociaux énormes. On protège surtout, etc., etc. Ce qui n'est pas le cas aux États-Unis ou dans d'autres zones du monde. Enfin, faut regarder en France la protection qu'il y a eu sur le prix de l'énergie.
C'est la facture de l'État-providence, selon vous.
Enfin, je sais pas, ça me semble quand même relativement évident. Donc, c'est le même discours. processus en ce moment, les gens disent ouais, oui, je veux un salaire réel plus important, bon, ce qui est une revendication assez classique, on va dire comme ça, mais en même temps, je veux continuer à travailler moins et partir en retraite plus tôt, quoi, et puis garder les 35 heures. Donc il y a un côté schizophrénique qui est quand même assez impressionnant, quoi. On ne peut pas avoir les deux en même temps. Donc est-ce que malheureusement l'Europe n'est pas assez dynamique? Oui, ça c'est un regret, mais en même temps, il est lié à notre politique générale, et surtout en France. Après, sur l'économie, oui, je suis d'accord avec vous, elle n'est pas. Ok, elle pourrait être plus, elle a été plus dynamique. On espère qu'elle va être plus dynamique, mais est-ce qu'elle est catastrophiste? Non. Je veux dire, il y a quand même toujours des entreprises qui se développent, tirées, c'est vrai, par les grandes entreprises, mais les entreprises tirent derrière tout un tissu d'ETI et de PME. Donc encore une fois, là aussi, on a l'impression de par moment dresser un tableau d'économie française où c'est la catastrophe, etc. Enfin, le chômage continue de reculer.
Non, pas en France.
Non.
Les derniers chiffres ont été quand même où c'est stabilisé, entre guillemets.
Quand je regarde le taux, il y a toujours pareil. Les chiffres de la DARES correspondant à Pôle emploi et les chiffres du taux de chômage indiqué par l'INSEE. Le taux de chômage, il a eu tendance à remonter un peu. Alors, ça ne se dégrade pas trop, là, en ce moment.
Oui, il y en a d'autres qui constatent bien. Enfin, on n'a pas une réexplosion du taux de chômage. Il a quand même baissé ces dernières années de manière assez significative.
Ah, mais clairement.
Donc, oui, encore une fois, moi, je ne suis pas en train d'avoir un propos tout va bien, tout est rose, etc. Mais soyons réalistes et factuels. Oui, l'économie française, globalement, fonctionne plutôt pas trop mal, avec des poches effectivement beaucoup plus compliquées, mais en vision globale, on ne peut pas dire que c'est la catastrophe.
Christian Leboisson.
On est bien d'accord, je n'ai pas dit la catastrophe. Je pense que le débat, au-delà de la croissance à court terme, le débat c'est effectivement quel est le sentier de croissance de nos pays européens sur le moyen terme.
Oui, c'est le sujet.
Et ça rejoint le débat qu'on a ouvert sur l'évolution de la productivité, sur ce qu'on appelle la croissance potentielle, etc. Quand on est dans un pays ou une zone qui a une croissance potentielle, j'allais dire de 1% par an, il ne faut pas s'étonner qu'on n'ait pas 3% pendant plusieurs années.
Mais
peut y avoir du rattrapage, il y a eu du rattrapage post-Covid, etc. Donc, le débat, c'est effectivement la politique de l'offre, le débat, c'est la compétitivité, le débat, c'est le lien entre la transition écologique, énergétique et le rythme de la croissance. Enfin, on parlait tout à l'heure de l'inflation. Tout ça va avoir des conséquences macro. Et moi, on est là-dedans. Je veux dire, alors, la BCE, je salue le geste de la BCE cette semaine.
Du 6 juin.
Du 6 juin de la semaine dernière.
Ouais.
Bon, voilà. Je trouve que la BCE a bien fait de prendre les devants, j'allais dire, par rapport à la Réserve fédérale, alors que souvent, dans le passé, elle arrivait après.
Elle était suiveuse. Oui.
On essaye de faire ce qu'on peut faire dans un contexte où il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre, mais il faut utiliser celle qui est.
La question qui peut se poser après la décision de politique monétaire, c'est de savoir si le fait de précéder effectivement à la Réserve fédérale américaine ne va pas pénaliser l'euro par rapport au dollar, et un euro trop affaibli peut-être élément tirant l'inflation, notamment sur les prix de l'énergie.
Oui, mais pour l'instant, on va voir ce que va faire la Fed en septembre.
Ouais.
Il est question qu'il y ait une baisse du taux directeur. Les taux directeurs de la Fed sont au-dessus.
Oui, oui, absolument.
Au-dessus
Bon, et l'inflation est au-dessus. Hein,
voilà.
Aux États-Unis,
non, mais
on est à 34.
Ce que je pense, dans les semaines qui viennent, je pense que c'est pas tellement la décision du 6 juin de la BCE qui va peser sur l'euro. À court terme, ça n'a pas vraiment pesé. On va voir si le débat électoral français et les conséquences de l'élection ont un impact plus significatif. On va voir.
Moi, je rajoutais un point.
Oui, Christian Poyot, après on parlera de désinflation, justement.
Ouais, la notion de basse pression, il y a un point qui me semble aussi important, qui sont les normes européennes. Alors, normes au sens très large, d'accord? Où, encore une fois, ces normes, on comprend l'esprit général qui est dans le bon sens, notamment sur l'environnement, certes, mais qui font peser et sur les entreprises et sur les particuliers un poids vraiment très important. Et pourquoi je souligne ce point? Parce que je pense que nous tous, on discute à droite, à gauche, on rencontre, on écoute la presse, etc. Et le sujet de la pression normative, encore une fois, que ressent l'agriculteur, la TPE, même le particulier, pèse de manière très très importante. Donc,
c'est sûr, voilà. C'est même chiffré.
Vous voyez ce que je veux dire? C'est un impact économique significatif. Moi, pour le voir, Micropole, on est dans la data, donc toutes les normes, c'est de la data. Donc on voit le sujet de très très proche. Donc ça pèse sur les entreprises, mais ça pèse aussi sur l'électeur, je veux dire, sur le particulier au final. Donc là-dessus, il faut que l'Europe, c'est un mot très large, mais en tout cas la Commission, ait une vision beaucoup plus pragmatique que ça. Ça joue, encore une fois, sur l'économie et également sur l'orientation politique des Européens. Et ça peut être très dangereux.
On devait avoir une loi Pacte 2 qui devait tout simplifier, hein, qui promettait une simplification. Ouais. Vous pouvez l'oublier, cette loi Pacte 2. Vous vous êtes intéressé, Agnès Benassi-Kéré, également, à la politique tarifaire des les entreprises et vous avez mené une enquête. Qu'est-ce qu'elle dit ?
Alors, c'est une enquête régulière. Hein.
Donc,
la dernière livraison qui date de cette semaine, qui concerne le mois de mai, on voit que les entreprises, on interroge les entreprises sur leur politique tarifaire du dernier mois. Et on voit que dans l'industrie, 7% des entreprises déclarent avoir augmenté leur prix au mois de mai et 5% déclarent l'avoir baissé.
5% déclarent l'avoir baissé.
Et donc, ces pourcentages nous ramènent bien à... Enfin, avant 2021, il y avait plus d'entreprises chaque mois qui déclaraient avoir augmenté leur prix. Donc, on voit là l'effet au niveau microéconomique, la désinflation, on la voit en route.
On parle d'industrie, sur ces chiffres.
Sur l'industrie.
D'accord.
Sur le bâtiment, c'est encore plus marqué, puisque la proportion qui annonce avoir baissé ses prix est supérieure à la proportion qui annonce avoir augmenté ses prix. Donc là, on a vraiment une baisse de prix. Et puis dans les services, par contre, ce n'est pas encore tout à fait le cas. Et ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure sur le fait que l'inflation dans les services allait mettre plus de temps à revenir à la normale. Et donc ça nous conforte quand même dans l'idée, premièrement, qu'il y a effectivement une désinflation. Deuxièmement, ça montre ce qu'on anticipait. C'est-à-dire que la désinflation, dans un premier temps, ça vient du fait que les prix de l'énergie, du fret, dans une certaine mesure, reviennent vers un niveau normal. Donc on a une désinflation par les coûts. Mais ensuite, évidemment, la politique monétaire agit. C'est-à-dire que c'est plus difficile pour les entreprises de passer des hausses de prix aujourd'hui qu'en 2022 et 2023. C'est plus difficile parce que la demande affaiblit. On est à 0,8 de croissance, alors qu'on était avant à 1,1. Ce n'était pas énorme, mais c'était quand même plus important.
Chiffre revu à la hausse, d'ailleurs, le 1,1 pour 2023.
Oui.
Alors... Au-dessus du chiffre prévu par Bruno Le Maire.
Alors, il y a eu donc un changement entre-temps, donc ce qui n'est pas facile à suivre, mais il y a un changement de base pour les comptes nationaux,
oui.
Avec des révisions. Et puis, il y a eu des révisions par ailleurs sur l'année 2023, ce qui est normal, c'est toujours le cas. Le PIB se stabilise à peu près 2 ans après le premier chiffre.
Christian Debossieu, oui, là-dessus,
moi,
et après, on dira un mot d'impôt. Pour
non, mais juste
une émission sans impôt, ce n'est pas une
derrière
émission.
Derrière tout ça, il y a aussi le... Au fond, le débat sur le comportement de marge des entreprises, finalement, parce qu'on avait dit en 23, et peut-être encore au début de l'année, que les entreprises avaient tendance à vous savez, inflation et marge. Vous
oui,
souvenez ce débat qu'il y avait eu il y a quelques mois. Et là, j'ai le sentiment que, compte tenu de la demande qui n'est pas terrible, compte tenu de la concurrence, alors, tout dépend des structures de marché selon les secteurs, j'imagine, et le pouvoir des prix des entreprises sur les prix dépend des conditions de marché qui ne sont pas les mêmes d'une industrie à l'autre. Je ne sais pas si c'est pris en compte dans... Enfin, c'est compliqué.
Alors, ce débat était un peu monté en épingle parce que aussi on n'a pas vu que la France est assez différente des autres pays de la zone euro. Dans les autres pays de la zone euro, on a vu effectivement une hausse importante des marges qui a contribué à alimenter l'inflation. En France, c'est beaucoup moins le cas. On a eu une hausse, certes, mais après une baisse importante. Et en fait, la France a une force sur longue période, c'est un partage de la valeur ajoutée qui est stable. Et ça, je pense que c'est une encre importante pour l'économie. Et on voit que les marges tendent toujours à revenir un peu vers le même niveau et la part qui revient au travail revient aussi vers le même niveau. C'est pas le cas dans d'autres pays. En Allemagne, par exemple, on a connu une dérive avec une contraction de la part qui revient au travail.
Ce que vous dites,
la France est très redistributive, quoi, grosso modo, c'est ça.
Alors, le niveau est relativement stable.
Sur le partage de la valeur ajoutée, voilà. Ça ne se déforme pas comme aux États-Unis, par exemple.
Le taux de marge est 31, j'avais en tête, 31-32%.
De quoi, pardon,
31-32%. Le taux de marge.
Oui, le taux de marge.
C'est-à-dire, profit sur valeur ajoutée globale sur PIB, c'est 31-32%, ça ne bouge pas beaucoup, Agnès l'a dit. Et ça veut dire, je ne vais pas vous le démontrer, mais ça veut dire, globalement parlant, que les salaires réels suivent à peu près la productivité du travail.
Oui. En tout cas, ça dément la... Ça démine la crainte d'un effet de second tour prix-salaire, visiblement, vu ce que vous décrivez.
Ça démine certains discours politiques, surtout.
Donc, néanmoins, dans la prévision, donc, on a pris comme hypothèse que les salaires réels allaient rattraper, mais pas aller au-delà. Donc, il n'y a pas d'emballement des salaires, parce qu'on n'a pas vu jusqu'à présent. Et on suppose aussi un rattrapage partiel de la productivité. Et ça, c'est une inconnue. C'est que la productivité en France a particulièrement baissé depuis le Covid.
Absolument.
Et le rattrapage semble prendre beaucoup de temps. Donc, nous, on pense toujours qu'il y a une partie qui va être rattrapée. Mais voilà, il y a une petite inconnue de ce côté-là. Évidemment, pour les entreprises, à hausse de salaire donnée, s'il y a moins de productivité, eh ben, ça fait plus de coûts.
Deux infos pour terminer. Une que je vous donne comme ça, Emmanuel Macron probablement va renvoyer la réforme de l'assurance chômage à plus tard. Il semble dire que ce sera plus une loi qu'un décret. Actuellement, il y a un décret qui était attendu pour le 1er juillet, qui est dans les mains du Conseil d'État. Et puis, on va terminer, on a 1 minute 56 avec les impôts. Ah, Christian Poyot, vous êtes prêt à payer plus ? Si certains, dans la discussion, veulent ouvrir le levier fiscal, a-t-il dit hier, trois petits points, sous-entendu, eh bien écoutez, moi j'ai besoin d'avoir des partenaires pour faire un contrat de gouvernement. Si parmi ces partenaires, il y en a qui mettent dans la balance des hausses d'impôts, ben on ira. Voilà.
Vous pouvez nous rappeler le classement de la France dans le poids fiscal, enfin la pression fiscale
Ex aequo, quelquefois premier que le Danemark. En prélèvement obligatoire. Hein.
Voilà, vous avez raison.
Prélèvement, ça compte les cotisations sociales.
On soit encore plus que ça. Quoi. Voilà, la réponse, elle est là. Enfin, je veux dire, la pression fiscale qui existe autant sur les entreprises que sur les particuliers est déjà complètement dingue en France. Et elle ne fait que freiner la croissance, le pouvoir d'achat, enfin, tout ce qu'on voudra. Donc quand on entend dire qu'on va réaugmenter la pression fiscale, on marche sur la tête. C'est comme le débat sur les frais de succession. Les frais de succession en France sont les plus élevés d'Europe. Donc il faut remettre les choses sur la table, en perspective.
J'ai pas regardé tous les programmes, Christian. Alors, je vous précise que Gabriel Attal, on vient de me dire qu'il avait confirmé la signature du décret sur la réforme de l'assurance chômage au 1er juillet. Donc, visiblement, c'est... Bon. Regardez, j'ai regardé un peu le programme du RN. On taxe les super-profits, on taxe la fortune financière, par exemple.
On refait l'ISF, c'est ça ?
C'est l'ISF, on l'adore, l'ISF.
Pour moi, c'est une déclaration politique, plus que des déclarations économiques. Je parle de M. Macron.
M. Macron, oui.
Et deuxièmement, ça veut peut-être dire aussi qu'on va ralentir des baisses d'impôts qui étaient dans le tuyau. C'est tout le débat sur l'évolution des impôts de production du côté des entreprises.
Oui, mais c'est toute façon, qui reste énorme et qui nous pénalise fortement par rapport à l'Allemagne.
Dans la mesure où le projet de loi de finances 2025 ne sera pas réalisé par les gens actuellement en place, les 2 milliards promis aux classes moyennes, on verra. Et le milliard en moins de CVAE, on verra.
Non, mais le problème, c'est que le sujet majeur, c'est que encore une fois, la France globalement ne travaille pas assez, autant du fait de son âge de départ à retraite ou du temps de travail global. Et ça, évidemment, personne ne le dit. Mais je pense qu'on est là pour le redire, le réappuyer, et avoir du réalisme et pas des fantasmes qui, au final, pénalisent le citoyen au quotidien.
Merci Agnès Benassiquéré, Christian de Boissieu, Christian Poyot. On se retrouve demain à 9h. Vous serez avec Emmanuel Le Chypre Manette.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.